Il parle de cet épisode de Jacob qui se trouve Genèse, chapitre 28, et on va lire les versets de 10 à 22. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu, il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. François, c'est à toi, merci beaucoup.
Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est toujours une joie pour Robert et moi d'être parmi vous, de partager un bon moment, le sabbat en votre compagnie. Alors ce matin, j'aimerais plonger avec vous dans l'un des épisodes les plus déroutants de toute la Bible. Il ne s'agit pas du texte qui vient d'être lu, même s'il est nimbé de mystère et qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire. Non, il s'agit d'un autre épisode de la vie de Jacob qui se déroule une vingtaine d'années après ce fameux rêve qui vous a été lu. C'est un événement qui a lieu lui aussi au cours d'une nuit. Un événement au sujet duquel Elie Wiesel a écrit ceci. Aventure étrange, mystérieuse de bout en bout, d'une beauté à faire frémir, d'une intensité à faire douter les sens. Qui n'a-t-elle fasciné ? Philosophe, poète, rabbin, conteur, tous cherchent à résoudre l'énigme de ce qui s'est passé cette nuit-là. Que s'est-il donc passé cette nuit-là? Eh bien, lisons-le ensemble. Nous sommes donc un peu plus loin dans l'histoire de Jacob. Nous sommes au chapitre 32 de la Genèse cette fois, et nous lirons les versets 23 à 32. Genèse 32, versets 23 à 32. Cette même nuit, Jacob se leva, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses 11 enfants, et il passa le gué du Yabok. Il les prit et leur fit passer le torrent, puis il fit passer ce qui lui appartenait. Et Jacob resta seul. Un homme se roula avec lui dans la poussière jusqu'au lever de l'aurore. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit, « Laisse-moi, car l'aurore s'est levée. Je ne te laisserai pas, répondit-il, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?»« Jacob, répondit-il. » Il reprit, « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda, « De grâce, indique-moi ton nom. » « Et pourquoi, dit-il, me demandes-tu mon nom ?» Et là même, il le bénit. Jacob appela ce lieu Péniel, c'est-à-dire face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. Le soleil se levait quand il passa Pénuel, il boitait de la hanche. Aventure étrange et mystérieuse, en effet. Cet événement représente certainement le tournant décisif de la vie de Jacob. Pour le comprendre et lui donner sens, il faut le replacer dans son contexte. Jacob est à la veille de rencontrer son frère Ésaü, avec lequel il est en conflit depuis toujours. Les textes nous disent que les jumeaux bataillaient déjà dans le ventre de leur mère. Jacob a commencé par extorquer son droit d'aînesse à son frère, puis il lui a volé la bénédiction paternelle, trompant par là même son père Isaac avec la complicité de sa mère Rebecca. Pas très glorieux tout ça. Pour échapper à la vengeance d'Ésaü, Jacob a dû fuir et il a dû se réfugier chez son oncle Laban, le frère de Rebecca, à quelques 300 kilomètres au nord de chez lui. Là-bas, Jacob va passer 20 ans, 20 années plutôt conflictuelles aussi. Jeu de dupes entre Jacob et Laban, décidément l'oncle et le neveu partagent quelques traits de famille, et semblent avoir pour devise « un malin, malin et demi ». Rivalité aussi entre les deux femmes de Jacob, qui sont les filles de Laban, Léa et Rachel, c'est à celle qui va donner le plus de fils, et pour cela, tous les moyens sont bons. Jalousie aussi des fils de Laban, qui voient d'un mauvais œil la prospérité et la réussite de leur cousin. On peut dire que le tableau de famille est loin d'être idéal. Jacob va finir par cavaler en douce, avec femmes, enfants, troupeaux et tout ce qui lui appartient, pour rentrer chez lui. Laban part à sa poursuite et le rattrape, prêt à en découdre avec lui, mais finalement les deux hommes vont finir par conclure une alliance qui ressemble fort d'ailleurs à un pacte de non-agression. Et Jacob va poursuivre sa route. Il fait avertir Ésaü de son retour, mais il apprend que celui-ci arrive à sa rencontre avec 400 hommes, autant dire toute une armée. On dirait bien que l'heure des règlements de compte a sonné. C'est en tout cas ce que Jacob pressent, et le texte insiste sur la peur et sur l'angoisse de Jacob. Oui, Jacob est effrayé de devoir affronter son frère, d'autant que cette fois il n'échappera pas à la confrontation. Jacob va donc prendre toutes les précautions possibles, et il va faire trois choses en particulier. Il va envoyer des cadeaux à son frère pour espérer l'amadouer. Il va diviser son camp en deux, comme ça il pourra au moins en sauver la moitié si ça tourne mal. Et puis, il va prier. « Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü. » Et il est important de noter que dans la vie de Jacob, c'est la première fois qu'il est question de prière. Auparavant, il a tout au mieux été question d'un vœu, et encore un vœu conditionné. Souvenez-vous du texte qui a été lu par Eddy en introduction. Lors de sa fuite 20 ans plus tôt, arrivé dans un lieu qu'il nommera lui-même Bethel, Jacob va faire un rêve étrange. Il voit un escalier qui lie le ciel et la terre, et il voit des messagers de Dieu qui y montent et en descendent. Et puis Dieu va lui apparaître dans ce rêve et il va réitérer la promesse inconditionnelle qu'il avait déjà faite à Abraham. Promesse d'une terre, promesse d'une descendance nombreuse et aussi promesse qu'il sera source de bénédiction. Et Dieu va ajouter « Vois, je suis avec toi, je te garderai, je ne t'abandonnerai pas. » Suite à cette vision et à cette promesse, Jacob va faire un vœu, mais triplement conditionné. Si Dieu est avec moi et me garde dans le voyage que je poursuis, s'il me donne du pain à manger et des habits à revêtir, si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Ça fait un peu beaucoup de si, n'est-ce pas? Alors toutefois, ne lui jetons pas la pierre, mais demandons-nous si nous n'avons pas parfois tendance à faire pareil. Marchander avec Dieu, le mettre à l'épreuve, conditionner notre foi. Mais revenons à cette nuit de lutte au Yabok. On peut donc dire qu'elle s'inscrit dans un contexte conflictuel et de troubles intenses pour Jacob. Et troubles, vous l'aurez remarqué, le texte l'est aussi. Délibérément flou, énigmatique, contradictoire. Et s'il l'est, ce n'est pas anodin, évidemment. Par contre, tous les ingrédients sont réunis pour nous faire comprendre qu'il s'agit là d'un épisode charnière, d'un tournant décisif dans la vie de Jacob, voire même d'une expérience initiatique. Un premier indice nous est donné précédemment. Au terme de sa longue période de fuite et d'exil, alors que Jacob a passé 20 ans chez Laban, il va recevoir un appel de Dieu. Le Seigneur lui dit « Retourne au pays de tes pères, au lieu de tes origines, je serai avec toi. » Retourne. Le verbe hébreu pour retourner signifie aussi « se convertir ». Dans l'Ancien Testament, il est souvent utilisé pour dire « revenez à moi, revenez à Dieu ». Il semble bien donc que ce retour soit aussi pour Jacob l'histoire d'un retournement, d'une conversion. Cette nuit-là, au gué du Yabok, Jacob reste seul. Examinons les éléments de cette phrase. Quand ? Eh bien la nuit. La nuit est un temps d'obscurité qui, dans la Bible, a souvent une connotation particulière. Un temps d'épreuve, de questionnement, de bouillonnement, de confusion. Un temps où se jouent des événements importants, surtout d'un point de vue psychique, émotionnel, spirituel. Mais la nuit symbolise aussi les choses cachées et obscures, comme ce qui peut être caché et obscur en nous-mêmes. Et puis, la nuit est aussi un temps où Dieu peut se révéler, où il est à l'œuvre. Et puis encore, la nuit fait partie d'un cycle. Il débouche sur le jour et sur la lumière. Et vous aurez peut-être remarqué le mouvement ascendant qui rythme l'épisode. De la nuit, on passe à l'aurore et on finit en plein soleil, en plein jour. Un deuxième élément, où ? Eh bien, au pied des montagnes de Galaad, sur une des rives du Yabok, qui est un affluent du Jourdain. Dans la Bible, les cours d'eau, les mers, sont symboliquement des lieux qui séparent, mais aussi et surtout des lieux à traverser, des lieux de passage. Le gué est un endroit peu profond d'une rivière où on peut facilement traverser à pied. Passage physique d'une rive à l'autre, donc, mais aussi passage symbolique de Jacob lui-même vers une conscience accrue de qui il est. Et un détail intéressant, c'est qu'il y a aussi l'idée du passage. Peut-être l'aurez-vous remarqué, mais dans cet épisode, on parle beaucoup de passage. Passé revient 4 fois, sans compter le mot « gué » qui est lui-même construit sur la racine du verbe « passer ». Et Chouraki traduit d'ailleurs « il passa la passe du Yabok ». Il y a donc beaucoup d'insistance sur le fait que ce récit est un passage incontournable, il va falloir y passer, passage difficile, ce sera un combat, mais passage qui s'avérera fondateur et libérateur. Et encore un détail intéressant, c'est que Yabok est construit sur un verbe qui signifie faire le vide, se vider. Alors on peut se demander de quoi Jacob va bien devoir se vider au cours de cette nuit. Et puis, troisième élément, comment ? Eh bien, dans la solitude. Précédemment, le texte a fortement insisté sur les possessions et les richesses de Jacob, en femmes, en enfants, en gens, en biens, en troupeaux. Et après tant d'insistance, le récit précise, Jacob resta seul. Il y a des choses dans la vie qu'on ne peut qu'affronter seul, qu'on doit nécessairement affronter seul. Sur la nature du combat qui suit, autant vous dire que les commentaires et les questionnements sont aussi nombreux que variés. Et reconnaissez que le récit se prête délibérément à cette diversité d'interprétations. Quelle scène étrange, en effet. Essayez de la visualiser. Quelqu'un engage une lutte avec Jacob. Les deux silhouettes, indistinctes, se roulent dans la poussière toute la nuit, dans un corps à corps serré, sans échanger le moindre mot. Tout est confus. La nuit, la poussière empêche d'y voir clair. Et pour accentuer cette confusion, dans le texte original, la plupart des verbes n'ont pas de sujet défini. On ne sait pas trop qui est qui fait quoi. Un homme se roula dans la poussière avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alors, la traduction de la Taube que j'utilise ici vous surprendra peut-être. Pourtant, elle colle au plus près du texte original. Le verbe qui est généralement traduit par « se battre » ou par « lutter » est totalement unique dans la Bible. Il n'apparaît que deux fois dans cet épisode-ci, au verset 25 et 26. Il évoque littéralement l'idée de lutter en remuant de la poussière. Et par ailleurs, ce verbe peut être traduit par « lutter contre », mais aussi « lutter avec », ce qui n'est pas la même chose. Il y a là donc aussi une grande ouverture d'interprétation. Dans la tradition juive, la lutte est un moyen indispensable pour croître et pour grandir. Une lutte qui peut se jouer à divers niveaux, des problèmes humains ou matériels à résoudre, mais aussi des questionnements, des interrogations, des doutes existentiels ou spirituels. Elle peut donc aussi concerner notre relation à Dieu. Le symbole de la lutte implique une force d'âme, la persévérance et la ténacité, ce dont Jacob va faire preuve ici d'ailleurs. Et puis paradoxalement, c'est aussi dans la reconnaissance de ses failles et de ses faiblesses, en disant son nom, Jacob, qu'il va en sortir vainqueur et qu'il sera nommé Israël. Étrange combat donc de Jacob avec. Mais avec qui au juste ? Avec l'ange, bien sûr. C'est ainsi que bon nombre d'artistes l'ont représenté. Sauf que le mot « ange » ne se trouve pas dans le texte. Avec Dieu, alors, c'est évident. Toute la tradition chrétienne l'affirme. Alors oui, peut-être, mais c'est un raccourci un peu rapide, comme nous allons le voir. Alors, qui est cet être au comportement aussi mystérieux que paradoxal ? Alors, s'agit-il vraiment d'un adversaire ? Ou est-ce Jacob qui le voit comme tel ? Et puis, est-il seul ou est-il multidimensionnel ? Mais que nous dit le texte ? Le texte nous dit trois choses. Au début, il est question d'un homme, Ish, indéfini, indéterminé, qui maintient volontairement dans le vague. À la fin, a posteriori donc, c'est Jacob qui dira qu'il a reconnu en lui la divinité. J'ai vu Elohim face à face. Et au milieu, au moment de lui attribuer son nom nouveau, l'homme dira « Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes », ce qui laisse entendre que la lutte a été plurielle et multidimensionnelle. Et c'est certainement aussi la raison pour laquelle l'identité de cet homme n'est pas définie. Et ceci est confirmé dans le dialogue qui suit d'ailleurs. Quand Jacob lui demande son nom, il n'en donne pas. Un être multivisage. Nous avons donc bien affaire à un combat singulier, pluriel. Singulier parce que tout à fait particulier et étrange, mais aussi pluriel car multidimensionnel. Alors je vous donne les trois interprétations les plus courantes. Une lutte avec Ésaü, son frère. De nombreux rabbins pensent en effet que Jacob a engagé une lutte avec l'esprit ou avec l'ange d'Ésaü. On retrouve ici l'idée de l'ange. En effet, dans la pensée hébraïque, chaque être humain a son ange, une sorte d'esprit inspirateur et personnel. Rien à voir avec la conception naïve d'ange gardien qui nous protégerait miraculeusement. Deuxième interprétation, une lutte avec lui-même. Jacob lutterait avec son propre esprit inspirateur. Jacob lutte avec Jacob. Reconnaissons que nos luttes intérieures ne sont pas les plus simples, ni les moins violentes. Nous sommes parfois nos premiers adversaires dans la vie, et nos victoires sur nous-mêmes sont souvent les plus difficiles, mais aussi les plus belles. Et puis enfin, troisième interprétation, une lutte avec Dieu. Tout aussi nombreux sont ceux qui voient dans ce combat une lutte spirituelle avec Dieu. Alors imaginez Dieu se roulant dans la poussière toute une nuit avec Jacob. Un Dieu malmené, incapable de l'emporter, obligé de supplier pour qu'on le laisse partir. Oui, mais s'agit-il d'un Dieu adversaire ou d'un Dieu partenaire ? Alors que dans notre relation à Dieu, nous rêvons de facilité et d'évidence, voici que ce récit est plein d'ambiguïté. Un Dieu des surprises qui échappe à toute nos mainmises. Un Dieu qui se révèle dans l'obscurité et non dans la lumière. Dans l'énigme et non dans l'évidence. Dans la lutte et non dans la quiétude. Oui, mais Dieu promet, je suis avec toi, je te garderai, je ne t'abandonnerai pas. Est-ce là ce que dirait un adversaire? Alors, lutter contre ou lutter avec? Lorsque nous pensons lutter contre Dieu, en vérité, ne lutte-t-il pas lui-même à nos côtés, avec nous? Dans nos luttes, n'est-il pas plutôt notre allié, même quand nous nous plaçons nous-mêmes parfois en adversaire de lui, ou quand la réalité semble dire le contraire? Alors, vous n'êtes pas du tout tenu de me suivre, mais je pense en effet que cette nuit de lutte au Yabok s'est jouée sur les trois plans, avec le frère, avec lui-même et avec Dieu. Mais revenons au récit qui va prendre une nouvelle tournure. Laisse-moi, car l'aurore s'est levée. Et là, on peut être surpris, car au lieu d'être soulagé de se débarrasser enfin de l'autre, que va faire Jacob? Eh bien, il va s'accrocher à lui. Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. Souvent dans la Bible, quand il est question d'aurore ou d'aube, eh bien, on s'attend à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va nous surprendre d'ailleurs. Et ici, eh bien, on va passer de la lutte au dialogue. Le dialogue. Voilà un mot qui est cher à la psychologie moderne, qui insiste beaucoup sur l'importance du dialogue et les bienfaits du dialogue, surtout en matière de gestion de conflits. C'est dans le dialogue, en effet, que les conflits ont le plus de chances de se dénouer et de se résoudre. Place donc au dialogue. Quel est ton nom ? Question de pure politesse ? Sûrement pas dans la pensée hébraïque, car vous le savez, dans la Bible, le nom révèle la personnalité de quelqu'un, qui il est en réalité, dans la profondeur de son être. Qui es-tu vraiment ? Alors on peut être surpris. Pourquoi cet homme a besoin de connaître le nom de Jacob pour le bénir ? Serait-ce pour ne pas se tromper sur son identité ? À mon sens, cette question a dû faire mal à Jacob, et peut-être plus mal qu'un plaquage au sol. Car n'est-ce pas en ne révélant pas son identité, et même en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, que Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü et a trompé son père Isaac? Cette question renvoie Jacob à un passé dont il n'a pas à être fier, et qui le hante peut-être. Alors, que va faire Jacob ? Va-t-il encore ruser, mentir, se faire passer pour qui il n'est pas pour arriver à ses fins? Ou va-t-il enfin jouer franc jeu et par là même aussi oser se regarder en face? Jacob, répondit-il. On dirait bien que l'heure de vérité a sonné. Jacob. Jacob, un nom construit sur les verbes Akeb et Akab. Eh oui. Je suis celui qui ne supporte pas de talonner et qui est prêt à tout pour supplanter. Je suis un roublard qui a bâti sa réussite sur la duperie, la ruse et le mensonge. Jacob, un nom lourd de sens, probablement devenu trop lourd à porter pour lui. Mais connaître le nom de quelqu'un, c'est aussi avoir une certaine prise sur lui et même une certaine emprise. Et quand on donne à quelqu'un un nom, cela veut dire qu'on veut aussi donner une orientation particulière à sa vie et à son destin. En révélant son nom, Jacob se place donc entre les mains de son vis-à-vis, à sa merci. Mais, et c'est là aussi un autre paradoxe du passage, cet abandon à l'autre va conduire Jacob à une libération, à une victoire. On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Un nom nouveau, Israël. Et voilà encore une ambiguïté, car ce nom peut signifier plusieurs choses, et l'une n'exclut pas l'autre. Une étymologie propose « lutteur d'aile ». Selon une autre étymologie, Dieu se montre fort, triomphe. C'est intéressant car l'homme dira pourtant à Jacob, « Tu as lutté et tu l'as emporté ». C'est bien Jacob qui a été capable de ça. À force d'attribuer tout à Dieu, on en finirait presque par oublier le potentiel humain. Dans cette lutte, Jacob a découvert qu'il est capable de faire face, d'encaisser, de tenir le choc. Et puis surtout, il a démontré qu'il peut être autre chose que Jacob. Et c'est ce que propose une autre étymologie d'origine populaire, celle-là, qui propose que Israël serait construit sur Ish, Sar et El. Autrement dit, celui qui est un prince et qui se tient droit devant Dieu. Et c'est intéressant car prince est droit devant Dieu et aussi devant les hommes. C'est tout le contraire de ce que Jacob avait été jusqu'à présent. Quand on dit de quelqu'un « c'est un prince », on sous-entend par là qu'il se comporte avec noblesse et grandeur d'âme. Et Israël va être béni. Bénir. Voilà un des mots-clés du cycle de Jacob. Si vous avez l'occasion de relire son histoire, vous verrez combien de fois cette idée de bénédiction apparaît. On y découvre un Jacob qui court littéralement après la bénédiction. Oui, mais quelle bénédiction ? Bénir, bien dire ou dire du bien. Eh bien, c'est toujours quelque chose de positif, évidemment, de réconfortant, de bienfaisant. On pourrait même dire que dans la Bible, la bénédiction s'ancre et s'enracine dans le récit de la création. On nous dit que cette création est bonne et même très bonne et qu'elle est faite pour le bonheur de l'être humain. On pourrait presque parler de bénédiction originelle. Dans l'Ancien Testament, cette bénédiction concerne l'être humain dans ce qu'il a de plus concret. Aussi, toutes les formes de réussite vont être considérées comme des dons de Dieu et des signes extérieurs de bénédiction. Une grande famille, la santé, la richesse, le prestige, la fertilité, que sais-je encore. Alors on peut se demander pourquoi Jacob a tant besoin de cette bénédiction-ci, puisqu'il présente tous les signes extérieurs du parfait béni. Des femmes, une flopée d'enfants, surtout des fils, des serviteurs, du bétail et des biens en quantité. Et puis, n'a-t-il pas déjà été abondamment béni ? Oui, mais la première fois, c'était du vol. Alors peut-on vivre d'une bénédiction volée ? Et puis la deuxième fois, cette bénédiction était incluse dans une promesse divine et Jacob l'a marchandée. Souvenez-vous des trois scies de Bethel. Peut-on vivre d'une bénédiction marchandée ? Et puis, sa réussite extérieure suffit-elle à son bonheur, à se sentir réellement en paix, serein, d'avoir le sentiment d'être réellement béni ? On sent bien que cette bénédiction-ci est vitale pour Jacob. Et vous remarquerez que le texte est très laconique. Il le bénit. Pas d'explication, pas de définition, pas de restriction, parce que la bénédiction n'est ni une recette unique, ni une formule magique. Autrement dit, cette bénédiction-ci ouvre sur tous les possibles, sur un vaste horizon. La bénédiction est quelque chose de très personnel, que chacun vivra et expérimentera de manière différente, intimement. Jacob appela ce lieu Peniel, c'est-à-dire face de Dieu. Voilà qui est intéressant, car quand Jacob demande son nom à l'autre, il n'en donne pas. En l'appelant lui-même Elohim et en nommant ce lieu Peniel, c'est donc Jacob lui-même qui va donner un sens à ce qu'il vient de vivre. Cette nuit de lutte au Yabok est devenue précisément pour Jacob une expérience particulière avec Dieu. Une chose est sûre en tout cas, chacun va sortir de ce combat profondément transformé aux yeux de l'autre. Jacob est devenu capable de reconnaître en l'autre le visage de Dieu et la source de bénédiction véritable. Et celui-ci a pu voir en Jacob Israël. Et si vous adhérez à l'idée que cette lutte est multidimensionnelle, eh bien cela veut dire aussi que Jacob est désormais capable de reconnaître la divinité en l'autre, son frère, mais aussi en lui-même, Jacob. En témoigne d'ailleurs la façon dont il traitera son frère par la suite et dont il mènera désormais sa propre barque. J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauve. Autre traduction, et mon être est secouru et mon âme a été libérée. Salut, secours, libération, délivrance, voilà le résultat concret de cette nuit de lutte au Yabok. Souvenez-vous, Jacob avait prié « Délivre-moi ». Il semble bien que sa prière ait été exaucée, mais sûrement pas comme il l'avait imaginé. Que résulte-t-il donc de cette nuit de lutte? Eh bien, plusieurs choses à plusieurs niveaux. Notons d'abord qu'il ne s'agit pas d'un combat comme les autres. Quand on pense lutte ou combat, on pense généralement à vainqueur et vaincu, gagnant et perdant. Or, nouvelle surprise ici, il n'y a que des gagnants. De ce combat, Jacob va ressortir sérieusement transformé, désarticulé physiquement, mais réarticulé dans son identité, rebaptisé Israël, un nom positif, porteur de force, d'espérance, tourné vers l'avenir. Il se sent enfin béni et délivré. Et il est boiteux. Et c'est là l'ironie de l'histoire, car boiteux, c'était tout sauf un signe extérieur de bénédiction. Mais boiteux, finalement, n'est-ce pas le symbole de ce que Jacob avait été depuis toujours? Dans la suite de l'histoire, eh bien, Jacob n'aura pas disparu totalement. Ce nouveau nom, Israël, va cohabiter avec l'ancien. Jacob va devoir se nourrir d'Israël pour faire grandir en lui cette nouveauté de vie. Et il y a fort à parier qu'Israël devra de temps en temps lutter avec ce bon vieux Jacob. Ainsi ira donc Israël-Jacob. Ainsi allons-nous, nous aussi, bien souvent. Boiteux, mais vainqueur et béni. Sa vision de Dieu et sa relation à Dieu en sortent transformées aussi, nous l'avons vu. Et puis surtout, sa relation à Ésaü, son frère et son jumeau, en ressort transformée aussi. Au bout de cette nuit de lutte, alors que le soleil se lève, Israël va aller à la rencontre de son frère et se réconcilier avec lui. Réconciliation. Voilà l'énorme enjeu de cette nuit de lutte. Une réconciliation qui se joue à tous les niveaux, avec lui-même, avec Dieu et avec son frère. C'est donc aussi, surtout, l'enjeu de la fraternité. Alors pour eux deux, forcément, puisqu'ils sont frères, mais pour nous, plus largement, la fraternité de la grande famille humaine. Le combat de Jacob peut donc être compris comme un combat pour devenir un frère capable de rencontrer son frère et de se réconcilier avec lui. Chacun dans sa différence, son altérité, mais chacun dans le respect et l'amour de l'autre. Pour que cela soit possible, évidemment, il faut qu'il soit libéré des liens qui les tiennent prisonniers. Rivalité, tromperie, jalousie, convoitise, haine, rancœur, vengeance, peur, que sais-je encore. Pour Jacob et Ésaü, en tout cas, ce combat sera victorieux. Et permettez-moi de pointer l'attitude d'Ésaü, qu'on a souvent tendance à diaboliser. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est ce que Jacob craignait. Mais ça ne va pas se passer. En fait, Jacob va découvrir un Ésaü auquel il ne s'attendait pas. Le texte est particulièrement explicite et émouvant. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils se mirent à pleurer. Après s'être réconciliés, Jacob et Ésaü iront chacun de leur côté, mais dans une fraternité retrouvée, ou je dirais plutôt dans une fraternité enfin trouvée, réconciliés et en paix. Et plus loin, on retrouvera les deux frères unis pour enterrer leur père, Isaac. Ésaü a pardonné, et je pense que pour Jacob, c'est aussi une grande leçon. Le soleil se levait quand il passa Pénouël. L'épisode tissé de noir et d'ombre jusqu'à présent se termine donc en pleine lumière. Le soleil se lève littéralement et symboliquement. Je l'ai suggéré, ce récit est un passage, une traversée, passage de l'ombre à la lumière. Et ce mouvement ascendant n'est pas sans rappeler un autre récit, celui de la création, un soir, un matin. Après avoir vécu cette nuit au Yabok, Jacob va poursuivre le cours de son existence, mais différemment, car cette nuit a donné le jour à Israël. C'est donc l'histoire d'une naissance, d'une renaissance, d'une délivrance. Alors j'espère que ce récit vous aura touché et interpellé. En tout cas, moi, il me touche profondément. Si ce n'est pas le cas, eh bien, j'espère au moins que nous pourrons trouver quelques pistes d'interpellation. Voici donc, pour conclure, quelques pistes. Peur, angoisse, nuit, solitude, combat. Voilà un cocktail qui vous est peut-être familier ou auquel vous redoutez de devoir goûter un jour. Qu'est-ce qui nourrit vos peurs et vos angoisses? Mais surtout, comment les gérez-vous? Avez-vous tendance à les fuir, à les refouler, ou alors à faire face et à affronter? Si on veut aller de l'avant, on ne peut pas passer sa vie à fuir. Un jour ou l'autre, il faut prendre son courage à deux mains et passer son propre guet du Yabok. Y a-t-il eu des moments charnières et des tournants dans votre vie qui ont ressemblé à des luttes et des combats? Qu'en est-il sorti? Après coup, diriez-vous que cela valait la peine d'en passer par là? Question redoutable. Quel est ton nom? Qui es-tu en vérité? Révéler son vrai visage ou tricher et se faire passer pour quelqu'un d'autre? Oser se regarder en face ou se voiler la face? Un nom nouveau. Un nom nouveau parce que rien n'est jamais figé et que tout est toujours possible. Quelle est la part d'Israël en toi? Nous l'avons vu, Jacob courait après une bénédiction. Et toi, après quoi cours-tu? Être béni, comment comprends-tu cela? Te sens-tu réellement béni ou pas? Boiteux et béni, nous boitons tous de quelque part. Cela nous empêche-t-il de nous sentir bénis? Jacob a fait une expérience particulière avec Dieu. Il dit qu'il a vu Dieu face à face. Cela t'est-il déjà arrivé? En quelles circonstances? Quel visage de Dieu connais-tu? Et quel visage de Dieu aimerais-tu connaître un jour? Mais surtout, es-tu capable de voir la part de divin dans l'autre, mais aussi en toi-même? Réconciliation. Aurais-tu besoin d'être réconcilié avec toi-même, avec quelqu'un d'autre peut-être, ou avec Dieu? Es-tu prêt à lutter pour y arriver? Je suis avec toi, je te garderai, je ne t'abandonnerai pas. Voilà la promesse inconditionnelle de Dieu. Vois-tu cette promesse se réaliser dans ta vie? Ou as-tu parfois l'impression d'être abandonné de Dieu? Ou pire, qu'il serait contre toi? J'espère que vous aurez pu trouver dans cette histoire de Jacob une bénédiction particulière de la part du Seigneur pour vous-même. Et si quelqu'un parmi nous devait se trouver en ce moment au guet du Yabok, eh bien, puisses-tu te fortifier de cette expérience de Jacob? Sache que le soleil finit toujours par se lever, même si la nuit semble s'éterniser. Et si pour l'instant tout est confus et obscur, accroche-toi, malgré tout, de toutes tes forces à cette promesse inconditionnelle de Dieu. Je suis avec toi, je te garderai, je ne t'abandonnerai pas. Amen.